Bienvenue dans le module 10 de ce cours Microsoft Virtual Academy, dans lequel vous apprenez à développer une application multiplateforme en utilisant Cordova, AngularJS et Bootstrap. Alors jusque-là, on a une application qui est fonctionnelle, qui utilise beaucoup de features du téléphone, l'appareil photo, le stockage de fichiers, la géolocalisation, entre autres. Et à ce stade, il faut qu'on vérifie que ça fonctionne bien sur tous les environnements. Jusque-là, on utilisait pour développer l'émulateur Windows Phone, parce que personnellement je trouve qu'il est un petit peu plus rapide que les émulateurs qui sont à notre disposition ailleurs, mais à un moment donné il faut quand même vérifier que ça fonctionne partout. Donc pour pouvoir faire ça, on va tout simplement exécuter notre code sur ces différents environnements. Alors le premier environnement qu'on va utiliser c'est Android. Donc j'ai ici toujours mon application qui est configurée pour rappel en utilisant la cible debug Android à cet endroit-là, et j'ai mon émulateur qui tourne, et donc je vais lancer le déploiement de mon application dans l'émulateur qui est ici en debug. Donc on a le lien qui se fait entre Visual Studio et mon application dans mon émulateur, comme ça je vais pouvoir en plus comprendre un petit peu ce qui se passe si jamais j'ai un problème, et vous allez voir qu'on va devoir l'utiliser. Alors là, c'est principalement lié au fait qu'on est sur du multiplateforme, on a forcément des petites variances, des petites différences. En l'occurrence, dans Cordova, comme c'est de l'HTML, du CSS et du JavaScript, comme vous le savez, il y a toujours des petites différences, des petites choses qu'on va tuner en fonction de la plateforme sur laquelle on est. Quand on est dans le monde du web, voilà, on a toujours des différences entre les différents navigateurs qu'il va falloir prendre en compte. Comment ça va se passer, ici ? Ben, c'est ce qu'on va voir, l'application est en train d'être déployée. Le package APK ici en train de se mettre à jour sur le téléphone. Voilà, mon application est lancée et en debug, donc on voit ici qu'elle est en train de tourner. Et alors si je clique sur les liens, je me rends compte que ça fonctionnait très bien sur Windows Phone, mais ça ne marche pas sur Android. C'est pas lié à Android, hein, c'est lié au fait qu'il faut que je fasse attention au style que j'utilise, c'est pour ça que je dois vérifier fréquemment que ça marche bien. Et alors pour comprendre comment ça marche, je vais utiliser ce petit bouton qui est là, qui me permet de sélectionner un élément dans l'émulateur, dans la WebView, puisqu'il y a un lien qui est fait entre le DOM et Visual Studio, et on voit qu'en fait, quand je sélectionne le moment qui est ici, ça me sélectionne tout. Donc en gros, ça me pointe sur le body, il ne sait pas quel est l'élément que j'ai choisi. Donc moi je sais où il est, alors je vais me déplacer un peu, et puis je vais aller dans ma navigation qui commence ici, en fait, et ce que je vais faire, c'est que je vois ici que j'ai une transformation qui se fait à cet endroit-là, qui est utilisée, qui n'est d'ailleurs pas utilisée en fait, qui est là par défaut dans Bootstrap, qu'on peut modifier si on veut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la désactiver. Et on va voir du coup en temps réel l'effet que ça a. Et l'effet est très simple, c'est que les boutons fonctionnent à nouveau. Donc on a du coup la possibilité de cliquer dessus et on a l'affichage qui se fait et qui fonctionne correctement. Si je clique là, donc là j'ai pas de moments qui sont sauvegardés dans mon émulateur, mais on voit bien que le bouton fonctionne et qu'on revient sur la fameuse page. Donc, alors, je suis tombé dessus pas par hasard là, si j'ai un moment qui arrive en fait ici. Donc on revient pas par hasard, enfin j'ai pas trouvé ça par hasard, j'ai mis un petit peu de temps, il faut chercher, essayer de comprendre quels sont les problèmes, naviguer un petit peu dans le CSS. L'avantage qu'on a ici, c'est qu'on peut assez facilement voir en temps réel, sans redéployer l'application sans cesse, et comprendre ce qui se passe. Donc là, je sais qu'il faut que je supprime ces différents éléments qui sont là. Alors je peux les copier-coller, les utiliser, mais moi je les ai déjà. Donc je vais arrêter le debug. Et donc, comment je fais pour résoudre ce problème ? Bah, tout simplement, je vais aller dans mes styles CSS, je vais surcharger ce qui existe par défaut dans Bootstrap à ce sujet, donc sur tous les aspects de transformation, sur les mêmes classes CSS. Donc là j'ai préparé le code déjà, voilà, on n'a plus qu'à le comprendre. Donc tout ce que je fais, c'est vraiment très simple, je prends exactement la même définition au niveau des classes, hein, donc les deux qui sont là, fixTop et fixBottom, et je vais annuler sur les différents éléments qui me posent problème, je vais mettre à none tout simplement pour annuler l'effet qui avait été défini. Une fois cette modification faite, il faut également qu'on aille dans le fichier HTML, puisqu'on va s'assurer, et ce n'est pas le cas ici, que cette ligne là est bien au-dessus de... Bootstrap est bien défini avant index.css, sinon c'est Bootstrap qui va redéfinir ce que j'ai fait et ça n'aura absolument aucune incidence sur le résultat. Et à partir de là, on va lancer l'émulateur. Mon application démarre. Et une fois qu'elle est démarrée, eh bien, on voit bien que mes boutons sont fonctionnels. Voilà, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc on récupère bien ce fonctionnement qu'on avait entre guillemets perdu ou qui n'était pas possible dans la version Android de l'application. Voilà, donc ça c'est pour Android. Je vais fermer l'émulateur. À partir de là, on va essayer de vérifier quelques autres comportements qu'on a dans l'émulateur Windows Phone notamment. Alors pour ça, on va les modifier encore une fois toujours dans les propriétés et repasser sur Windows Phone et lancer l'application dans l'émulateur. On l'exécute, voilà, ici. Voilà, mon application est démarrée. Quand je double-clique, je clique, elle fonctionne très bien, hein, c'est le même fonctionnement que jusqu'à présent. Quand je double-clique dans certaines zones, je vois que ça zoome. Alors ça donne vraiment une impression de l'application qui a été fait en HTML. Bon, il y a d'autres choses qu'on pourrait modifier, mais notamment ça, c'est un cas. Pour pouvoir le changer, c'est très simple. On va ajouter une ligne, une balise méta dans notre fichier HTML, donc ici en fait, à cet endroit-là, donc au niveau, enfin, là ou ailleurs, mais au niveau de l'entête du head de notre HTML, on va rajouter une balise qui va définir que donc pour le viewport, pour l'affichage de cette page web, on va lui demander de prendre toute la largeur, d'avoir un dimensionnement, un scaling qui est à 1 au départ, qui est maximum à 1, donc on ne peut pas zoomer à l'intérieur. Et que l'utilisateur ne peut pas grandir. Donc si je réexécute ça, mon application se réexécute. Et donc à partir de là, si je double-clique dans une zone, j'ai plus ce fameux effet de zoom qui était disponible jusqu'à présent. Autre petit souci qu'on a, vous voyez ici que l'entête en fait passe derrière la barre de statut de Windows Phone, donc qui me donne les différents indicateurs ici comme l'heure, la batterie et le niveau de réseau. Pour éviter ce problème, d'ailleurs ça c'est le cas sur toutes les plateformes, en fait on va aller dans le fichier de configuration et lui demander de se mettre en plein écran pour passer justement par-dessus ces informations du téléphone. Donc ça, ça va être interprété de manière différente en fonction de la plateforme sur laquelle l'application Cordova est exécutée. Donc on lance à nouveau cette modif pour pouvoir vérifier ce que ça donne. Voilà, donc l'application est réexécutée et là si donc on voit bien qu'elle se situe là. Donc on n'a pas assez d'éléments à l'intérieur, donc on va en créer quelques-uns. Alors on va faire test, on prendra pas d'image, c'est pas nécessaire, puis on va en faire un troisième, test 2, juste pour générer du contenu, créer, voilà. Et donc là en fait on voit bien que ça reste accroché en haut. En tout cas, on a toujours cet effet de bounce qu'on pourra résoudre un petit peu plus tard, mais voilà. Mais par contre, on a plus la barre de statut qui passe devant, donc on a résolu ce problème. Dernière petite chose, justement, c'est cet effet-là qu'on n'a pas envie d'avoir sur une application téléphone classique. Il y a plusieurs manières de le résoudre. On peut le résoudre au niveau de la config quand on est sur d'autres plateformes que Windows Phone, donc c'est un nœud à rajouter. Mais quand on est sur du Windows Phone spécifiquement, il va falloir qu'on aille dans le code généré par l'application, donc dans BLD, Debug. On a ici, ça c'est l'équivalent de ce que vous avez dans l'application Cordova classique, hein, et on a ici les différentes plateformes qui sont générées. Donc ça, pour information, si vous avez besoin d'y accéder, vous allez là, donc c'est l'endroit où vous êtes, BLD, Debug, plateforme, et vous retrouvez notamment Windows Phone 8, dans lequel vous avez au final le projet. Donc ça c'est le projet qui m'intéresse. Je vais donc démarrer mon Visual Studio. Il a démarré en haut, je vais le redescendre là. Et puis je vais accéder à ce projet là que je vais récupérer. Puisqu'au final, hein, pour rappel, Cordova ne compile pas lui-même le projet pour chacune des plateformes. Ce qu'il fait, c'est qu'il vous génère un projet et qu'il ensuite compile ce projet-là pour chacune des plateformes. Quand on est dans l'Android, ça va compiler du Java, etc., etc. Donc Visual Studio me charge mon projet. Et en fait, vous pouvez regarder un peu plus en détail si ça vous intéresse. Ici, il y a le répertoire avec le JavaScript et l'HTML qui se situe. qui est généré, pardon. Et d'ailleurs, si on regarde un peu plus en détail, on voit le fameux fichier cordova.js qui est généré pour chacune des plateformes, que vous pouvez regarder si vous voulez voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Et on a, donc comme promis, si je puis dire, on a une page principale dans laquelle on a simplement une web view. Si on jette un petit coup d'œil d'ailleurs, ça peut toujours être intéressant. Donc si je regarde le code de cette page-là, pardon, si je regarde le XAML de cette page-là, donc en passant par le designer, je me rends compte que j'ai tout simplement un élément qui s'appelle Cordova View, qui est un élément à Cordova, hein, qui est un contrôle Cordova, qui affiche une web view, mais qui a des petites fonctionnalités supplémentaires, et qu'on va pouvoir modifier en utilisant le code, justement. Et en gros, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, ou en tout cas ce qu'il faut faire pour qu'on évite d'avoir l'effet bounce qui monte et qui descend là dans la page web, c'est que on va modifier une propriété de ce CordovaView qui est this.CordovaView. Et disable, donc c'est assez parlant. Voilà, égal tout. Donc ça, on peut imaginer que dans une future version de Cordova, ce sera automatiquement pris en compte à partir du fichier config.xml. Pour l'instant, c'est à nous de le faire à la main. C'est pas grand-chose entre guillemets parce que c'est quelque chose qu'on va faire potentiellement uniquement quand on va déployer l'application. Et pour déployer l'application, on va générer un package en venant dans cet outil-là et en utilisant le package qui est généré directement. Donc il suffit de le compiler une fois avant de livrer l'app et tout sera bon. Donc je vais démarrer mon app à partir de là. Voilà, mon application démarre. Elle se met bien en plein écran, donc elle est dans une résolution un petit peu différente, mais bon, peu importe. Et on voit bien que, alors vous ne le voyez pas forcément, mais je ne peux plus scroller vers le bas. Donc vous le testez chez vous et vous verrez que ça fonctionne bien. Là, comme il ne se passe rien, c'est la preuve que ça marche, mais bon. Voilà, donc c'est des petites modifications qu'on va faire au fur et à mesure, un petit peu au fil de l'eau, pour que tout s'applique bien. Je vais fermer l'émulateur là. Puis je vais fermer cette version de mon appli. Et donc maintenant qu'on a testé sur les différentes plateformes de type téléphone, on a envie de tester ça sur une autre plateforme qui serait plutôt une tablette. Donc on va tester l'affichage justement sur une de ces tablettes. Alors pour faire ça, on va utiliser l'émulateur de Windows 8. Il faudra évidemment utiliser d'autres émulateurs, mais on ne va pas tous les faire dans le cadre de ce cours. Donc je vais passer dans le cas d'une application du coup Windows. Et alors j'ai plusieurs solutions. Soit j'utilise un simulateur, celui-là, hein, qui est ici. Soit j'utilise une machine à distance, ce qui est tout à fait possible, pour pouvoir utiliser par exemple une tablette tactile si vous n'en avez pas disponible, enfin si vous n'avez pas d'écran tactile sur votre PC. Ou alors la machine locale, si vous avez un écran tactile ou pas d'ailleurs, vous pouvez utiliser la souris. Donc moi je vais démarrer ça en local. Donc local machine, voilà. Je démarre en local. Ça me génère cette fois-ci un projet. Alors là, c'est une petite différence. Comme dans Windows 8, on a la possibilité, en tout cas en 8.0, on a la possibilité de créer une application en écrivant du JavaScript et de l'HTML. C'est pas une WebView qui tourne, c'est les capacités de Windows 8 qui permettent de faire tourner cet HTML et ce JavaScript, comme si on faisait une application Windows Phone. J'ai une petite erreur, je vais relancer. Parce que je pense que je l'ai un petit peu embêté en jouant avec le fichier derrière. Donc pour qu'il retombe sur ses pieds, voilà. Et donc oui, donc en fait ça génère ce projet-là qui est un projet WinJS au final, hein, mais sans WinJS à l'intérieur d'ailleurs, et ça m'exécute mon application. Et donc le premier, donc on peut faire du debug pas à pas et ce genre de choses. Donc là on a une petite erreur, hein, qui apparaît, qui peut vous bloquer un certain temps. Donc je vais vous donner la solution puisque ça peut poser problème. En fait, le principe de WinJS, c'est qu'on essaye de rendre les applications qu'on développe en JavaScript le plus sécurisées possible. En JavaScript, on peut faire beaucoup de choses. On peut injecter du code, on peut créer des balises à la volée, on peut faire vraiment beaucoup de choses qui sont plus ou moins sécurisées. Le principe de base, c'est de se dire qu'on ne peut pas faire ces choses-là en WinJS de manière classique. Il faut utiliser une certaine manière de fonctionner. Donc, si vous utilisez une autre manière, ça ne fonctionnera tout simplement pas. On peut injecter de l'HTML par exemple si c'est vraiment ce qu'on veut faire en utilisant tout statique HTML et ça va filtrer le contenu dynamique. Voilà. Donc c'est assez embêtant parce qu'en fait Les frameworks font tous ce type de manipulation-là, tous les frameworks JavaScript. Pour jQuery, par exemple, y a une modification qui a été faite par l'équipe de jQuery pour que ça fonctionne sur une application Win.js dans Windows 8. C'est valable à partir de la version 2.0. Donc si vous avez utilisé jQuery et uniquement ça, à partir de 2.0, vous n'aurez pas ce problème. Par contre, si vous faites comme moi, vous utilisez un autre framework, AngularJS ou autre, vous aurez ce problème. Mais ce n'est pas très grave, puisque pour le résoudre, vous avez en fait, il existe une librairie qui s'appelle, on va la chercher ensemble, qui s'appelle winstore-js-compat. Donc c'est quelque chose qui est disponible sur GitHub, qui a été créé par MS OpenTech, encore une fois. Donc c'est un fichier JavaScript qu'on peut télécharger, qu'on va aller récupérer ici. Voilà, on donne notre zip. On récupère sur son. Ou alors on se connecte au repository et on le récupère de cette manière-là, mais moi je récupère sous forme de zip, que je vais avoir du coup sur mon bureau, qui se trouve ici. Voilà, je vais le dézipper. Et donc j'ai à l'intérieur ce fameux fichier JavaScript que je vais copier et que je vais aller positionner dans mes librairies. Alors pas ici, on va le mettre dans les scripts, voilà, à cet endroit-là. Ce qu'il fait, en fait, alors c'est très simple, je vous laisserai regarder, hein, il fait des petites modifications de fonctions de base, de manière à ce que les frameworks les utilisent, mais utilisent des versions qui sont compatibles avec Win.js. Je passe les détails, hein, l'idée n'est pas de comprendre comment ça fonctionne. Puis qu'en fait, c'est vraiment simple, il suffit d'aller dans votre fichier maître, ou dans chacun des fichiers HTML que vous avez, et d'aller en tout premier, donc c'est la première librairie qui doit être référencée, référencer cette librairie-là. Donc c'est winstore-js-compat, et à partir de ce moment-là, à partir de ce moment, votre application va fonctionner sans aucun problème, puisque toutes les opérations nécessaires sont réalisées dans ce fameux fichier winstore-js-compat.js. Et voilà, donc c'est vraiment très très simple, donc il n'y a plus aucune raison de ne pas utiliser un framework qui vous plaît dans vos applications. On va le vérifier tout de suite, parce que l'application est en train de démarrer. Donc, elle démarre, ça fonctionne. Alors, on a aucun moment qui est sauvegardé pour l'instant. Je clique sur Add Moments. Alors, vous voyez d'ailleurs, bon, je vais cliquer sur Autoriser déjà pour la localisation, mais vous voyez déjà dans un premier temps que l'affichage est un petit peu différent. Ça, c'est Bootstrap qui fait ça. Parce que Bootstrap, en fait, fait en sorte que quand l'application est à une certaine taille, les boutons vont dans la navigation vont se mettre collés à gauche, et quand elle a une taille un petit peu plus grande, ça va être représenté différemment. Donc là, j'ai mon formulaire qui est un petit peu grand, on pourrait jouer avec, donc on va rajouter un moment sympa, voilà. On peut utiliser l'appareil photo, donc ça utilise la caméra de l'application, voilà, donc une petite tête, voilà. J'ai une superbe tête, et puis on voit que la localisation fonctionne correctement, et je peux donc créer ce moment qui apparaît ici. Et si je clique dessus, ça m'affiche également le moment en question avec l'affichage Bingmap qui s'affiche d'une certaine manière. Si je crée plusieurs moments, donc je vais en mettre un autre moment, voilà, je vais mettre une photo également, je vais mettre un peu plus bas cette fois, voilà, je clique sur OK, je crée ce moment-là, et donc je vois que j'en ai plusieurs qui s'affichent ici, j'en ai un en haut aussi qui est stocké mais qui n'a pas d'image. Une fois, à partir du moment où j'ai fait ça, le problème, enfin ce qui m'embête un petit peu là, c'est que je profite pas du tout de la taille de mon écran. Donc vous voyez, j'ai deux moments, mais ils s'affichent comme sur mon téléphone en très grand, je voudrais peut-être les avoir un peu plus petits, parce que sur une tablette j'ai plus d'espace, donc si c'est plus petit, je peux le visualiser et l'exploiter un petit peu plus facilement. Donc je vais retourner dans mon Visual Studio, j'arrête le debug de mon code, et je vais dans index.html, et je vais voir quel est le problème. Alors le problème ne se situe pas ici, puisqu'il se situe dans une vue qui est chargée, et la vue en question, elle est dans allMoments.html, donc vous vous rappelez qu'on était allé là-dedans. Et donc allMoments.html, en fait ce qu'on a là-dedans, c'est qu'on a ici un div, et je vais le personnaliser un petit peu en lui précisant que quand on est dans le cas d'une application avec un petit écran, donc col-xs-12, je vais avoir du coup un affichage sur 12 colonnes, donc ça va prendre toute la largeur. Par contre, quand on est sur un affichage plus large, donc tablette justement, LG-6 du coup, en fait quand on est sur un affichage plus grand, donc vous avez sur le site de Bootstrap à quoi quelle résolution correspond, c'est XS, il y a XS, M, etc. À quoi ça correspond? Pour savoir À partir de quand ça va être pris en compte. En tout cas, quand on est sur un affichage plus large, on aura 6 colonnes, donc ça s'affichera. En gros, le contenu qui est là-dedans prendra que 6 colonnes, et automatiquement, vu que c'est Bootstrap, il va y avoir un système qui va faire que ça va se mettre du coup côte à côte, puisqu'on a 12 colonnes qui sont disponibles sur une ligne en particulier. Donc je lance ça en local. Ça compile, ça me crée mon projet et ça me le déploie. Il est en train de générer le projet. Voilà. Et donc, alors j'ai ce fameux moment qui est là qui n'affiche absolument rien. Mais j'ai donc un affichage qui est un peu plus sympa. Donc si je rajoute encore un élément, il faudrait que je conserve l'autorisation. J'ai ici un autre moment. Je vais prendre une photo. Baisse un peu. Voilà. J'ai l'air dépressif. Donc je clique sur créer. Donc je vois bien que j'ai cet affichage sous forme de colonne comme ça. Ça ne prend pas toute la largeur parce que j'ai utilisé un conteneur qui n'est pas un conteneur tiré fluide. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si ici, dans la page HTML, le conteneur que j'avais utilisé, j'avais mis tiré fluide, là il prendrait toute la largeur. Par défaut, ça prend un dimensionnement qui donne un aspect site web. Donc là, c'est à nous de le modifier et de le personnaliser pour atteindre le résultat qu'on attend. Donc on va pas faire toute l'application ensemble, puisque c'est pas du tout l'objectif, mais vous voyez que on peut, grâce à ça, grâce au CSS et notamment grâce à Bootstrap hein, ici qui nous aide, mais c'est pas la seule manière de le faire, lui dire voilà, on a ces deux classes qui s'appliquent et du coup automatiquement en fonction de la résolution dans laquelle on est, on aura un comportement qui est différent. Et c'est comme ça qu'on peut déjà différencier le mode tablette du mode téléphone. Après, on pourrait aller un petit peu plus loin en utilisant du JavaScript pour essayer de savoir que tiens, je suis dans tel type de résolution, ou je suis sur tel type de plateforme, ou je suis carrément sur tel téléphone en particulier, donc je veux appliquer tel style, et adapter de manière un petit peu plus précise ce qui va se passer en fonction de certaines conditions. Donc ça peut se faire en CSS, ou ça peut se faire en JavaScript, ça dépend des cas. Et ça dépend des limites d'une techno ou de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre. Là, vous voyez qu'on a quand même une application qui est exactement la même sur les différentes plateformes. L'étape suivante, c'est de faire en sorte que cet affichage, potentiellement via le style CSS, soit complètement différent et s'adapte à la plateforme, puisque vous savez que sur une application Windows 8 ou Windows Phone, on n'a pas le même type de design ou de même d'ergonomie que ce qu'on aurait sur une application Android ou iOS. Donc potentiellement, on pourrait essayer de faire en sorte que ça s'affiche différemment et du coup que ça apporte une expérience à l'utilisateur qui est celle à laquelle il s'attend. Voilà, donc on en a terminé pour ce module. Dans le prochain module, on fera une petite conclusion et on verra comment aller un petit peu plus loin, notamment pour stocker des données en local, enfin plutôt inversement qu'en local, de stocker des données dans le cloud, pour pouvoir les partager entre plusieurs utilisateurs ou pour pouvoir les conserver pour les récupérer sur un autre téléphone potentiellement.